Moi, j'avais remarqué que c'était traduit ça par Alexandre. On a vraiment des bons talents à l'Église, hein, traduire un beau chant comme ça. Et merci à toute l'équipe de louanges qui font du beau travail, qui mettent au service des autres, hein, les talents et les dons qu'ils ont reçus. C'est la première fois que je pense que je vous parle, hein, depuis les fêtes. Et je veux vous souhaiter une bonne année. Et c'est ce qu'on veut, hein. On veut une bonne année dans le Seigneur. On veut que 2014 soit encore meilleur. Avoir une famille encore plus forte, un mariage plus fort, avoir un caractère qui va être encore un peu mieux, plus fort, avoir plus de foi et plus d'amour. On veut grandir dans notre amour. Alors, c'est ce que 2014, on se souhaite. Et vous savez, au début de l'année comme ça, il y a plusieurs personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se faire des résolutions de nouvelle année. Et les résolutions de nouvelle année, dans le fond, est en train de, ce que ça fait, c'est que c'est en train de dire qu'au fond de nous, on reconnaît que nous avons besoin de grandir à quelque part, dans certains domaines de notre vie. C'est ça que ça dit aussi. C'est qu'on sait qu'en dedans de nous, on sait à quelque part, au fond, qu'il y a certains domaines, on se connaît, il y a certains domaines dans notre vie qu'on a vraiment besoin de grandir. Et, mais comment tu fais ça? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et c'est, ça commence comme ceci. Il faut, tu veux grandir en 2014, il faut, vas-y Jean-Louis, tu veux que tu changes d'idée. On a perdu la manette, hein? Alors on essaie de se connecter en arrière, donner des petits messages. Là. Fait que, change d'idée. En 2014, il faut que tu changes d'idée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans quatre domaines, alors quatre mots-clés. Identité, développe, évangile. Puis exerce. D'accord? En 2014, si tu veux changer, tu as besoin vraiment de changer. Si tu veux grandir, tu as besoin de changer d'idée. Premièrement, c'est ça que tu as besoin. Premièrement, tu as besoin, ta vie a besoin, tu as besoin de vivre selon ta nouvelle identité que tu as maintenant en Jésus-Christ. On a commencé une série avant les fêtes, ça a commencé il y a quelque temps, dans l'Église primitive, à quelque part, on a commencé une série sur notre identité que nous avons maintenant en Jésus-Christ. Puis on a commencé à voir quelques caractéristiques, on en a vu sept, on va avoir une huitième aujourd'hui, on a ça ici. Et on a vu que lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, 17 le dit bien, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et la lettre aux Éphésiens, on est en train de passer à travers la lettre aux Éphésiens, et la lettre aux Éphésiens, dans le fond, établit, nous montre ce que nous avons maintenant en Jésus-Christ. Qui nous sommes? Notre identité a changé. Avant, on pouvait être bien différent, puis avoir toutes sortes de venir de cultures différentes. Mais lorsque tu viens à Jésus-Christ, il y a un nouveau peuple qui a été créé surnaturellement, qui est l'Église. Une troisième race, en quelque sorte, comme aimaient le dire les premiers chrétiens. C'est une autre race. C'est les disciples de Jésus-Christ. C'est le corps qui est l'Église et c'est vraiment un nouveau peuple. Et ce que nous voyons, c'est qu'à partir du chapitre 4, on a vu les trois premiers chapitres, il y a quelque chose qui se passe au début du chapitre 4 où il y a une transition qui se fait. Je vais donc t'inviter à venir te joindre à moi dans la lecture de ce passage-là. On va s'arrêter juste au premier verset pour le moment. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Alors, si tu veux trouver ça dans ta Bible, Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Où Paul commence en disant, son chapitre, en disant ceci, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de la paix. » Moi, j'aimerais vraiment revenir sur le premier verset. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Voyez-vous comment Paul commence? Il commence avec une préposition. Il dit « Je vous encourage donc. » Et ce que ça veut dire, c'est que ce petit « donc-là » est en train de faire un lien avec ce qui précède. Tout ce qui a été dit jusqu'ici dans les trois premiers chapitres. Et là, tout d'un coup, il y a une transition, il y a comme un pont où Paul va franchir un pont là et nous emmène dans une autre direction. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui va suivre est la conclusion de ce qui précède. Et quand on a vu notre série, jusqu'ici, on a vu les différentes caractéristiques de notre nouvelle identité maintenant en Jésus-Christ. On a vu qu'on était saint, on a vu qu'on était béni, apprécié. Nous sommes maintenant sauvés, réconciliés, on est encouragés, entendus. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans la section, dans les 16 premiers versets du chapitre 4, nous sommes doués. Alors, on voit les dons du Saint-Esprit qui sont donnés à chacun. Donc, ça, c'est notre identité, notre nouvelle identité, puis on va continuer à regarder ça jusqu'à la fin de la lettre. Mais jusqu'ici, Paul nous a montré sept caractéristiques, sept aspects de notre nouvelle identité, et une huitième, et il dit, bon, voici ce que vous êtes, maintenant, je vous exhorte à vivre selon cette nouvelle identité que vous avez maintenant. Vous n'êtes plus pareil, vous n'êtes plus comme avant, vous êtes une autre personne. Alors maintenant, moi, j'aimerais vous encourager, vous exhorter à partir du chapitre 4. Il va nous montrer ce que ça veut dire, cette nouvelle personne, cette nouvelle créature qu'on peut appeler simplement le disciple de Jésus-Christ. Voici comment cette personne-là va vivre. Et là, on va entrer dans certains détails très pratiques de la vie, comme le travail, tes relations avec ta famille, tes enfants, l'éducation familiale, etc. Et on va voir ça dans les prochains mois, aux prochaines semaines. Ça va nous rendre jusqu'au mois de février. La semaine prochaine, on a un service de baptême. Donc, ça va être un service spécial où on va avoir trois personnes, trois candidats qui vont se faire baptiser au premier service, trois au deuxième, alors six personnes. Mais après ça, on va reprendre la lettre aux Éphésiens. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que maintenant, votre vie doit refléter, vous devez marcher maintenant à la lumière de votre nouvelle identité. Et par exemple, prenons un exemple, on prend le premier. La première caractéristique du disciple, c'est que vous êtes maintenant saint. Alors, conduisez-vous avec sainteté. Et le mot saint va revenir plus de 16 fois dans la lettre d'Éphésiens. Conduisez-vous d'une façon sainte. Progressez dans votre sainteté. Ayez la victoire en victoire dans votre sainteté dans différents domaines. Que la sainteté se voit dans les différents domaines de votre vie. C'est un appel à grandir, et c'est vraiment le passage, les 16 premiers versets parlent de la croissance du chrétien, devenir plus grand, plus fort, s'améliorer de plus en plus, et le but ultime, c'est de ressembler davantage à Jésus-Christ. Mais ce qu'il faut dire, c'est que même si on a mis beaucoup d'accent sur l'identité maintenant du chrétien, il ne faut pas oublier que le héros dans ça, ce n'est pas nous, ce n'est pas centré sur l'homme, le héros c'est Jésus-Christ. C'est vraiment une lettre qu'on appelle christocentrique. Elle est centrée sur Jésus-Christ. Jésus occupe la première place. C'est le héros. Et d'ailleurs, on va le voir même ici, dans la section qu'on va voir. On voit que Jésus est le Seigneur de l'Église. Verset 5, 20 fois dans la lettre aux Éphésiens, on va retrouver cette expression, ce titre pour Jésus-Christ. Jésus est Seigneur de l'Église. Jésus est celui qui a gagné la bataille pour libérer les pécheurs. Jésus est celui qui a rempli toutes choses. Jésus est celui qui fait des dons à l'Église. Il est celui que nous voulons imiter. Verset 13, il est la plénitude de l'Église. Jésus est le chef de l'Église. Il est celui qui fait grandir l'Église. Il est la tête du corps. On va voir plus loin que l'Église est comparée à un corps. Et Jésus est la tête. Il est le chef de ce corps. Jésus, donc, est le héros, là, ici. Il occupe la première place. Et même si dans la tête de l'auteur, l'Église va être à l'avant-plan dans le passage qui va suivre, ça parle de la croissance du chrétien. Il faut se souvenir que Jésus est vraiment le premier, c'est pour lui qu'on veut grandir, c'est pour sa gloire. Jésus est le Seigneur, le vainqueur, la perfection, le donateur, le chef, la tête. Il est vraiment le héros ici. Et si nous voulons changer, nous voulons changer pour sa gloire. Alors pour grandir en 2014, il faut changer d'idée. Et ça commence en vivant selon cette nouvelle identité que nous avons maintenant. D'accord? Le reste du livre va détailler le style de vie que l'on doit retrouver, que l'on va retrouver chez cette nouvelle personne, ce nouveau disciple en Christ. Deuxièmement, développe la bonne attitude. Si tu veux vraiment grandir cette année en 2014, c'est très important que l'on développe cette belle attitude que l'on voit ici au verset 2. Il s'est dit au verset 2, « En toute humilité. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. En partant, là, c'est juste vous dire ceci. Ce n'est pas naturel. C'est spirituel. C'est Dieu qui va créer ça. C'est vraiment pas naturel que d'être humble. C'est pas naturel que de penser toujours aux autres. C'est pas naturel. On le voit d'ailleurs dans les équipes, tu vois. Dans les équipes, là, laisse le ballon de basketball à une gang de jeunes, de 20 jeunes. Tu sais ce qui va arriver? C'est tout le monde va vouloir le ballon, puis tirer le ballon, puis va vouloir être la vedette, puis faire le panier au bout. Là. Puis jusqu'à temps que le coach dise, regarde bien Joseph, là, tu t'en viens ici, là, tu vas t'asseoir sur le banc, là, puis jusqu'à temps que tu comprennes que c'est une équipe ici, puis on va être plus fort ensemble si on travaille unis. Si notre équipe est unie, là, puis que tu fais des passes, puis on travaille ensemble dans la même direction, tu vas voir, on va réussir, on va être plus fort. On le voit, instinctivement, le jeune va vouloir garder le ballon pour lui, puis ça va se tirailler. Non, c'est moi, puis tu vois courir sur le terrain, puis il est tout seul. C'est comme s'il n'y a pas personne d'autre. C'est comme si tout le monde dans l'équipe est là pour lui, là. As-tu remarqué ça? As-tu déjà fait ça? Moi, je me rappelle avoir fait ça quand j'étais jeune. Là, le coach, il dit, « Hey, Joseph, va t'asseoir. »« Ah ouais, Joseph, assieds-toi sur le banc. » là. Puis, tu n'as pas appris ta leçon, le banc. Puis, c'est pas naturel. D'ailleurs, même, regardez ce que Paul dit. Il ne dit pas juste avoir un petit peu d'humilité. Là. Non, il dit, « En toute humilité. » C'est ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu dois tellement être reconnu pour ton humilité, c'est quand on te rencontre, ça nous frappe, on part, on dit, « Bon, on sent que cette personne-là est humble. » Ça, c'est rare, ça. C'est surnaturel. C'est pas naturel. D'ailleurs, c'est le point que C.S. Lewis fait dans un de ses livres. Il dit, c'est drôle, il dit, moi, là, il dit, j'ai jamais rencontré un non-chrétien qui reconnaissait avoir un problème avec l'orgueil ou avec être centré sur lui-même. Tu sais, jamais j'ai rencontré quelqu'un qui dit, ah, j'ai vraiment un problème. Moi, je suis tellement prétentieux. Pense-y, là, quand est-ce au bureau, tu es allé prendre un break avec un employé, puis l'employé te dit, « Ah, moi, je me prends tellement pour un autre. Là. Ah, je suis tellement orgueilleux, moi, là, c'est incroyable. » Non, les gens, les non-chrétiens, d'ailleurs, c'est le point de C.S. Lewis, il dit, les non-chrétiens sont prêts à reconnaître certaines affaires. Ils vont voir, « OK, bon, j'ai vraiment un problème, moi, là, j'ai tentation avec les femmes, tout ça, j'ai la misère, tu sais. » Ils sont prêts à reconnaître bien des affaires, mais il y a une affaire que tu verras pas, il dit que j'ai jamais vu, en tout cas, chez des non-chrétiens, c'est de reconnaître qu'ils sont prétentieux, qu'ils se prennent pour un autre, qu'ils sont bien orgueilleux, qu'ils ont vraiment un problème avec ça. Ça, c'est bien rare. Il dit, les quelques fois que j'ai vu quelqu'un reconnaître, il dit, sais-tu, moi, j'ai vraiment un problème avec l'orgueil. Là. Moi, là, je te dis, là, c'était chez les chrétiens. Puis tu sais pourquoi? Parce que c'est surnaturel. C'est pas naturel. Tu viens pas au monde humble. Tu sais, on est centré sur nous-mêmes. On veut gagner, on veut être le, tu sais, le premier de star. C'est vraiment là, surnaturel. Et Paul dit, écoute, c'est en toute humilité, là. Il dit, c'est pas juste un petit peu. Là. Alors, l'humilité, c'est une qualité que Paul va mentionner, c'est des grâces de Dieu que l'on voit, par exemple, dans Galates 5, 22. On va lire un passage, justement, dans Galates 5, 22, qui dit ceci. Il dit, le fruit de l'esprit, ça vient de Dieu, ça. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Être dirigé par l'Esprit. Alors, ce sont des grâces que le Seigneur nous donne lorsqu'on marche dans l'Esprit. Et ces grâces vont nous aider à grandir ensemble. Si on peut entretenir, développer cette attitude en 2014 au sein de l'Église, je vous le dis, ça va nous faire grandir. Ça va nous aider à grandir. On va avoir une combinaison gagnante, pour employer cette expression-là, pour favoriser, on va avoir un milieu favorable à la croissance. Avoir cette idée-là. Et verset 3 dit, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Savez-vous pourquoi c'est tellement important et c'est nécessaire d'avoir cette attitude et qu'il faut mettre beaucoup d'énergie à essayer de conserver l'unité dans l'Église? C'est parce qu'on est un corps. C'est une belle illustration, le corps. C'est un peu comme si ta main commence à s'obstiner puis elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas te suivre, etc., il y a un malaise, là, tu vas aller à l'hôpital même. Et c'est ça, l'Église est un corps. C'est pour ça que Paul va mettre tellement d'accent et ça revient. Il va revenir avec les versets, il va répéter quelques fois. Mais Paul est en train de dire conserver l'unité. Travailler fort même pour la conserver. Mettez beaucoup d'énergie à conserver l'unité. Puis c'est intéressant parce qu'il ne dit pas créer l'unité. Il ne dit pas essayer de la trouver. Il dit conservez-la. Parce que ça, c'est un don de Dieu. C'est un miracle de Dieu, ça, l'unité, dans l'Église. Qu'on soit ensemble avec un bagage tellement différent. On arrive ici, nous autres, on a tout un bagage différent. On a un arrière-plan différent. Puis on est unis. Ça, c'est créé par Dieu. C'est un peu comme dans le Nouveau Testament, où les Juifs n'étaient pas capables de sentir, les Grecs, puis les différentes nationalités, ils avaient de la haine les uns contre les autres, des guerres et tout ça. Et donc, regarde dans le monde, c'est ce qui arrive. Mais en Jésus-Christ, lorsque tu viens à Christ, lorsque tu viens à Jésus, tu deviens une seule personne. Il n'y a plus de différence que ce soit un Juif, un non-Juif, riche, pauvre. Tu deviens, ça devient un. Ça, c'est un miracle, ça. C'est surnaturel. Et quand l'Église est unie, l'Église est plus forte. Alors, tu veux changer? Tu veux être plus fort en cette année? Alors, change d'idée. Change d'idée. C'est-à-dire, vis selon une nouvelle identité, développe une bonne attitude. Puis, troisièmement, centre ta vie sur l'Évangile. Voici ce que dit le verset 4. Et vous allez voir plus de 7 fois le mot « un ». Un, un, un. On est un, 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 tout le temps. Et Paul fait par exprès, là, c'est pas... Et verset 4, ce que ça dit « Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit à travers tous et habite en nous tous. » Il est question ici de l'Évangile. L'idée, c'est de se rappeler que c'est Dieu qui a fait cette œuvre magnifique en nous. Nous avons maintenant une nouvelle espérance de retrouver le Seigneur un jour, face à face, entrer dans l'éternité, être dans la joie, où il n'y aurait plus de larmes, plus de souffrances. On va être dans la joie ensemble aux noces de l'agneau. Ça va être glorieux. Vis ta vie centrée sur l'Évangile. Rappelle-toi toujours l'Évangile. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Nous avons un salut commun, et c'est ce que dit essentiellement le passage. Vous avez été appelés à une seule espérance, au salut, et Dieu habite en chacun d'entre nous. Le docteur Martin Lloyd-Jones était un grand chirurgien, beaucoup d'éducation. C'est un spécialiste en chirurgie. Et évidemment, quand tu es chirurgien, un spécialiste en Europe, tu es très bien, tu es confortable financièrement et tout ça. Et un jour, il a décidé de tout abandonner ça pour aller travailler pour une mission comme pasteur, vraiment d'une petite église, dans le fond. Et il y avait plusieurs démunis, il y avait des gens pauvres, des gens qui n'étaient pas éduqués, ils ne pouvaient pas s'éduquer. Trop démunis. Donc, il se retrouvait dans un contexte vraiment différent auquel il était habitué là, lorsqu'il était dans l'élite, si tu veux, des gens les plus riches et confortables, et avec les grands intellectuels et tout ça. Il se retrouvait dans ce contexte-ci. Et un jour, le diable est venu mettre une petite idée dans sa tête. Vous savez, on a des fois des petits langages intérieurs. C'est comme si quelqu'un te parlait en dedans. C'est comme un genre de dialogue intérieur. Là, c'est comme, à un moment donné, le diable est venu comme souffler un petit mot. Un soupçon sur lui. Il a dit, c'est comme si le diable me disait, dans une petite voix en dedans, me disait, « Es-tu vraiment chrétien, toi? Es-tu vraiment chrétien? » Tu sais comment le diable est, des fois, tu mets du doute, là. « Es-tu vraiment chrétien? » Puis là, Martin Lloyd-Jones, il a posé une question. Alors, il a posé ça dans sa tête. C'est comme un gros dialogue. Des fois, ça arrive, tu sais. Et là, il a répondu ceci. En fait, il a répondu par une question, puis il a dit, « Bien, explique-moi ça. Comment ça se fait que je préfère passer 3 heures à parler du Seigneur avec des gens qui sont totalement différents de mon arrière-plan, pas du tout pareils, des démunis, des gens qui ne sont pas éduqués, complètement une classe, un rang social complètement différent. Je préfère passer 3 heures de parler avec ces chrétiens de Jésus-Christ, que de passer quelque temps à parler à des grands intellectuels et des grands philosophes, des grands penseurs, des grands historiens qui ne sont pas chrétiens. Explique-moi ça. » Et vous savez ce qui est passé? Il dit lui-même dans son témoignage, il dit, « La voix s'enfuit. » Et dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'était le miracle de l'unité. Comment que l'Église, c'est un miracle l'Église, comment on est un, on est uni, et ça, c'est surnaturel. Et c'est ça l'Évangile. C'est l'Évangile qui a créé ça. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui a fait ça. Verset 4 dit, « Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui opère tout en tous. » Alors, centre ta vie sur l'Évangile, nous dit verset 4 à 6. Rappelle-toi de l'Évangile. Parce que, vois-tu, l'Évangile t'a donné une nouvelle famille. C'est que lorsque tu es venu au monde, tu as une famille biologique, l'ADN, tu partages l'ADN et tout ça, tu as des choses en commun, en famille, etc. Mais lorsque tu viens, Jésus-Christ, tu as maintenant une nouvelle famille qui est une famille éternelle, une famille spirituelle, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. Ta famille éternelle est celle avec qui tu partages un salut commun. Et tu as des frères et sœurs de sang, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé, là, qui t'a racheté, qui t'a permis que tu fasses partie de ce corps-là spirituel qui est l'Église. Et nous avons une seule espérance, c'est-à-dire qu'un jour, nous serons tous réunis ensemble, ce corps, cette Église universelle, on voit des chrétiens à travers le monde. Imaginez, vous allez vous retrouver avec des Coréens qui vont parler, ils vont pouvoir vous parler dans la même langue. Je ne sais pas s'ils vont tous parler le français ou quoi, mais en tout cas, on va tous parler la même langue, on va se comprendre pour l'éternité. Ça va être merveilleux. Mais rappelle-toi de ça, centre ta vie sur l'Évangile. Alors, change d'idée en 2014. Change d'idée. Vis selon ta nouvelle identité. Développe de bonnes attitudes. Centre ta vie sur l'Évangile. Et quatrièmement, exerce. Exerce un ministère envers les autres. Et tout le reste du passage, verset 7, verset 16, va parler des dons spirituels qui sont donnés à chaque personne. L'Église, et ce que nous découvrons, ce qu'on apprend, ce qu'on réalise en lisant le passage qui va suivre, c'est que l'Église a besoin de toi. On a besoin de vous parce que chaque personne ici, vous avez reçu un don spirituel. Et un don spirituel, c'est une énergie divine, une capacité divine pour accomplir un certain travail au sein de l'Église, pour aider l'Église à grandir et devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. C'est une capacité divine que moi, je ne pourrais pas accomplir avec la même bénédiction, si on veut, avec cette même énergie spirituelle et divine que toi, tu vas pouvoir accomplir avec ton don de l'Esprit. Et ça, c'est tout le monde. Tout le monde, là. Nous avons tous un don spirituel. Verset 7 dit, « Cependant, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit, « Il est monté dans les hauteurs et a emmené des prisonniers, et il a fait des dons aux hommes. » Alors, Paul nous dit que l'Église est composée de gens doués, puis ça, c'est vous autres. Vous êtes doués. Jésus a fait des dons aux chrétiens, à tous les membres de son corps. Et on a déjà fait une série, je pense, il y a je ne sais pas combien de temps, là, sur le Saint-Esprit, puis on a détaillé un peu tous les dons de l'Esprit. On a regardé ça plus en détail, mais on ne veut pas aller trop en profondeur ici, mais on veut quand même rester ici dans le texte, et c'est ce que le texte nous dit. Mets au service des autres le don que tu as reçu. Voici une définition des dons spirituels. Un don de l'Esprit est une capacité divine qui nous est donnée souverainement par Dieu afin d'accomplir une œuvre dans la vie des gens et de rencontrer leurs besoins, afin de faire grandir le corps de Jésus en qualité et en quantité. Oui, parce que Dieu a donné aussi des dons d'évangélistes pour aller gagner des âmes, et c'est ce que nous voulons grandir aussi en quantité, que plusieurs personnes se détournent de leurs péchés et se consacrent au Seigneur, donnent leur vie, qu'ils se reconnaissent pécheurs et qu'ils viennent à Christ pour leur salut, et qu'ensemble on puisse grandir en quantité mais aussi en qualité, qu'on puisse grandir ensemble. 1 Corinthiens 12, 7 dit ceci, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, et selon le même Esprit. » Alors c'est pour le bien de chacun, pour le bien de tous. Voyez-vous l'importance de servir au sein de l'Église? Il y a eu un pasteur à un moment donné qui a entendu parler d'une maison de spécialistes qui faisait des sondages auprès dans la communauté pour rendre leur église plus pertinente pour la communauté. Et il faut être sensible à ça quelque part. Mais lui, ces spécialistes-là sont venus à l'église et ils ont dit à ce pasteur-là, ils ont dit, écoute, c'est pas compliqué, nous, ce qu'on va faire, on va aller dans la communauté, on va faire un sondage dans la communauté, on va demander aux non-chrétiens du voisinage quel genre d'église qu'ils aimeraient avoir. Et comme ça, après ça, on va revenir, on va te donner les réponses de tout le résultat du sondage, et tu vas pouvoir ajuster l'Église en fonction des réponses des gens, et puis tu vas voir l'Église qui va grandir. Ah ben OK, pasteur, ça marche, allez-y. Ça fait que les spécialistes s'en vont dans le quartier, puis tout ça, ils font tout un questionnaire. Puis, puis là, les spécialistes reviennent, ils disent, ouais, écoute, on va donner la réponse. Ils ont donné bien des réponses, là, mais ils disent, il y a une chose qui est revenue sur toute la ligne. Tout le monde a dit exactement la même chose. On veut une église qui ne nous demandera absolument rien. Qu'on vienne jamais nous demander de servir les autres. Ça commence bien. Vois-tu, on vit dans un monde de consommateurs. On consomme, on reçoit, donne-moi des services. Mais vois-tu, c'est tout à fait à l'opposé de l'attitude de Jésus. Par exemple, dans Marc 10, on dit quoi? On dit Jésus qui dit, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Hey, c'est toute une aide, ça. Paul aussi va à contre-courant dans sa mentalité, dans la mentalité de consommateur qu'on voit aujourd'hui. Lorsqu'il dit ceci, que l'Église est un corps, puis on a besoin les uns des autres, il faut vraiment s'aider mutuellement, se compléter. C'est comme s'il nous manque quelque chose, même si nous avons, voici ce que nous avons en Jésus-Christ. Mais il y a un pasteur, un commentateur biblique qui a fait soulever ceci. Il dit, regardez ce que nous sommes en Jésus-Christ, mais il nous manque quelque chose. Et c'est lorsqu'on exerce les dons du Saint-Esprit, il nous manque la croissance, dans le fond, et la sainteté, l'obéissance et tout ça. Et c'est lorsqu'on exerce les dons spirituels les uns envers les autres qu'on est en train de contribuer à la croissance de mon frère ou de ma sœur. On s'aide mutuellement comme ça à grandir lorsqu'on sert le Seigneur. Alors, tu veux que 2014 soit différente, une année différente, qu'elle soit une année importante. Alors, si tu sers déjà le Seigneur, continue à servir. Décourage-toi pas. Il y a des fois qu'on ne voit pas le fruit, c'est décourageant, mais continue, persévère, sers le Seigneur. Ou va servir ailleurs, dans un autre domaine. Si tu trouves que ton temps est peut-être fini, trouve-toi autre chose au sein de l'Église, puis va servir ailleurs. Mais si tu ne sers pas encore le Seigneur, peut-être que tu es nouveau ou tu ne sais pas tout à fait quels sont les besoins, tu vas au kiosque. Va au kiosque, tu donnes ton nom. Quelques-uns l'ont déjà fait au premier service. Alors, tu vas donner ton nom. On a un formulaire au kiosque qui s'appelle « Faites équipe avec nous ». On va vous donner ce formulaire que vous pourrez remplir. Et puis, tranquillement, on va vous diriger dans un ministère où vous pourrez servir le Seigneur. 1 Pierre 4, 10 dit ceci. Tu t'en viens bon, là, Jean-Louis? Tu lis presque mes passés, là. C'est bon. 1 Pierre 4, 10 dit ceci, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Mettez-le au service des autres. Sers. Et tes enfants, si jamais tu as des enfants, là, une des choses que tes enfants ont besoin de voir, ils ont besoin de voir des parents qui sont impliqués dans l'Église. Puis peut-être même tu peux faire un projet en famille avec les enfants. Tu peux prendre les enfants, puis prendre un projet à l'église, soit missionnaire ou quoi, ou à l'école du dimanche, le TER, puis tu t'impliques avec les enfants, c'est un projet de famille, c'est magnifique. Les enfants ont besoin de voir ça. Ça donne de beaux souvenirs, des bons souvenirs que les enfants gardent. Mets au service des autres le don que tu as reçu. On a tous reçu des dons de l'Esprit. Alors, verset 8 dit, « Il est monté, toujours dans Éphésiens 4, il est monté sur les hauteurs. » Il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Verset 9 continue en disant, « Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre? Que celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. » C'est une citation qui revient, c'est une citation d'un passage dans les psaumes, mais qui veut essentiellement dire Jésus qui est mort, qui est allé dans la terre, qui est mort, puis qui est ressuscité après 3 jours. Devenu vivant puis est allé au ciel. On voit son ascension dans le livre des Actes. Alors, après avoir exercé un ministère sur terre, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et il a été mis au tombeau. Ensuite, il est ressuscité d'entre les morts et il est retourné dans le ciel. Mais maintenant, il règne encore aujourd'hui. Jésus règne, il exerce encore un ministère ici sur terre, mais le ministère que Jésus poursuit aujourd'hui sur terre, c'est à travers nous autres, à travers l'Église. Par le Saint-Esprit, Jésus manifeste sa puissance à travers nous. C'est ça, c'est le même qui travaille, qui exerce son ministère maintenant. Alors, Jésus a fait des dons à l'Église et il a besoin de vous. On a besoin de vous. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi pour accomplir une œuvre. Il a préparé d'avance des œuvres. Nous disons ça dans Éphésiens 2, 8 et 10, que Dieu nous a sauvés, il a préparé des œuvres d'avance afin qu'on puisse les accomplir. Oui, c'est sûr, est-ce que Dieu peut faire le travail sans nous autres? Absolument. Mais il a choisi dans son plan de travailler avec l'Église. Ça fait partie de sa volonté, ça. Et il y a une raison pour ça, c'est qu'il veut qu'on partage la joie et la bénédiction de voir l'Église grandir, de voir l'Église s'épanouir. Il veut qu'on fasse partie de cette joie-là. Il veut nous communiquer cette joie-là. Et on a la joie lorsqu'on sert et on voit l'Église grandir. Verset 12 dit, « Il a fait des dons pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce qu'on parvienne tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Moi, l'une des questions que je reçois souvent lorsqu'on parle, bien, presque tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui va venir me voir pendant qu'on fait une série sur les dons de l'Esprit. Ils vont venir me voir et vont me poser la question. Ils vont dire, comment on fait pour trouver son don? On fait quoi pour trouver son don? Quoi? Mais moi, j'aimerais vous donner trois conseils pour vous aider à trouver votre don. D'accord? Premièrement, sers. Sers dans l'Église. Trouve-toi un ministère, trouve à quelque part. Trouve la meilleure façon de découvrir votre don, c'est simplement de vous impliquer. Et c'est d'essayer. À la limite, vous vous trompez, c'est pas grave. Essayez, tu sers le Seigneur pareil. Là, Dieu va bénir ça pareil. Alors, n'aie pas peur de te tromper ou faire des erreurs. Tu y vas, tu t'impliques, tu te mouilles. Tu trouves un endroit pour servir, puis tu vois comment ça va se passer. Puis si ça ne marche pas, c'est pas dramatique, c'est pas grave. Tu essaies d'autres choses, tu vas voir. Alors, soyez prêt à servir dans les domaines aussi qui sont peut-être pas ton domaine. Avec le temps, les gens vont voir tes capacités. Deuxièmement, veille sur ta croissance et ta maturité. Parce qu'il y a vraiment une différence entre être doué et être mature. Ce n'est pas pareil là, du tout. Là. On doit entretenir non seulement nos dons, parce que des fois, si le Seigneur te donne un don dans un domaine, tu veux parfaire ce don-là, on peut grandir et on peut perfectionner notre don là, par la connaissance, l'expérience et tout ça. Mais c'est vraiment différent de ta croissance et de la maturité. C'est vraiment pas la même chose. D'ailleurs, parfois, les gens doués ne sont pas matures, puis ils font vraiment du trouble. Premièrement, c'est trompeur. Ils se trompent eux-mêmes, puis c'est même dangereux parfois pour l'Église. Don Carson a déjà dit quelque chose de vraiment intéressant. Puis là, ça fait 33 ans là, que je suis pasteur, puis je le vois, je regarde en arrière les églises où je suis allé. C'est tellement vrai. Don Carson a dit, parfois, c'est les gens les plus doués même. Parfois, c'est des gens très, très, très doués, peut-être même les plus doués, qui vont faire le plus de troubles dans une église. Tu sais, il y a vraiment une différence entre être doué et être mature. C'est pas pareil. Alors, il faut travailler sur les deux. Il faut travailler sur notre maturité, notre croissance, grandir vraiment. Alors, on veut viser la maturité. Troisième conseil pour nous aider à découvrir notre don. Là, voici quelques questions qu'on peut donner, qu'on vous donne. C'est un peu comme un guide. Ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. C'est juste un guide. Et à mesure que tu réponds à ces questions-là, tu vas peut-être tranquillement, il y a des pistes, d'accord? Alors, j'aimerais vous présenter ça. C'est quelques questions que vous pouvez vous poser. Qui as-tu envie de servir? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est la jeunesse? Dans quel domaine aimerais-tu servir? Qu'est-ce que tu as à cœur de faire? Tu sais, des fois, là, ça commence parce que tu as un fardeau dans ton cœur, tu vois un besoin. Puis, sans le réaliser, surnaturellement, c'est que Dieu est en train de t'appeler à accomplir quelque chose. Je me rappelle un frère à l'église, à une autre église, il avait tellement à cœur de faire de la rénovation puis d'aider les femmes monoparentales. Et donc, il était particulièrement talentueux pour la rénovation, etc. Puis, il avait un cœur, je pense que Dieu lui a donné un cœur de service, un don de service. Puis il a commencé à... Alors, l'Église l'a entouré, puis il a dit, « OK, qu'est-ce que tu as besoin? » Donc, le ministère a commencé, puis le ministère est devenu assez important. Ils ont fait de la rénovation des maisons et tout ça. Ça a été super beau. Tout un témoignage, tout un rayonnement dans la région. Ils ont aidé les monoparentales, même dans la région de Montréal et tout ça. Et ça a commencé avec quelqu'un qui avait à cœur, il voyait quelque chose, puis il avait à cœur d'aider dans ce domaine-là. Sans le réaliser, Dieu est en train de l'appeler à venir en aide à tout un domaine. Et il est devenu une bénédiction. Quelqu'un d'autre qui a d'ailleurs installé le système de climatisation, celui qui a parti la compagnie, André Fauché, avait à cœur d'aider les démunis à Montréal. Là, c'est rendu tellement gros. Ils ont une table de 200 pieds à l'année. Il fait froid dehors, les moins quelques, là, à l'année, tous les mercredis après-midi, ils s'en vont, là, 200 pieds de table avec la nourriture et tout ça. Puis, payait ça même ça de sa poche pendant longtemps. C'est devenu tellement gros, là, l'Église, à l'aide. Puis ils ont tout un ministère à Montréal envers les démunis. Et puis, il peut donner des Nouveaux Testaments, prêche l'Évangile, quel témoignage. Et sa compagnie sert pour appuyer financièrement son ministère. Alors, vraiment, là, son cœur, mon ami, quelqu'un de très généreux. Donc, ça, c'est une bonne question à se poser. Quel besoin vois-tu dans l'Église? Quel service te procure la plus grande satisfaction, la plus grande joie? C'est une autre question que tu peux te poser. D'autres questions. Quelle occasion Dieu a-t-il déjà pourvu pour que tu serves les autres? Dans quoi excelles-tu et tu as eu le plus de réussite? Encore là, ce n'est pas inspiré. Peut-être que tu n'auras pas de réussite du tout. C'est quoi? C'est Jérémie, je pense, qu'il a eu 50 ans de ministère, pas une conversion, mais il était fidèle à Dieu. Donc, tu sais, il y a comme un bémol ici, un gros bémol, même si tu ne vois pas de réussite et tout ça. Juste des petites pistes, peut-être, tu sais, où les gens vont dire, sais-tu, je vois quelque chose, tu sais. C'est comme quelqu'un, il y a bien longtemps, à l'église de Chamédée, lui, il se voyait comme un enseignant, tu sais, il dit, ah, moi, j'ai le don d'enseigner, là. Ah, puis il dit, ah, j'ai vraiment le don d'enseigner, là, fait que, OK, fait que, on veut être sensible à ça, tu sais, puis il a fait une étude, il a fait un message et tout ça, puis tout le monde était là. Fait que, dans le fond, puis on lui a donné quelques occasions, parce que tu veux grandir, parce que moi, je me rappelle mon premier sermon, ça faisait dur. Tu veux grandir, là, mais ça ne grandissait pas bien, bien, là. Puis finalement, pour se rendre compte qu'il était le seul à se voir comme un enseignant, là, tu sais. Fait que tu veux avoir l'opinion des autres autour, là, tu veux savoir qu'est-ce que tu en penses. C'est l'humilité, hein, tu en rappelles tantôt, là, ça prend cette qualité-là. Pour quel type d'action reçois-tu le plus de compliments de la part des chrétiens engagés? Va voir des chrétiens matures autour de toi, puis tu dis, regarde, moi, elle est un petit peu, je veux être enseignant, je veux être sensible, je cherche un peu là, quoi faire, tout. Est-ce que ça a de l'allure ce que je suis en train de faire? Demande à des gens autour qui sont engagés, des gens matures et engagés, de voir et t'aider. Parce que parfois, on manque d'expérience, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le don. Là. Et c'est pour ça que c'est délicat. On ne veut pas décourager quelqu'un qui commence puis qui échoue et tout ça. Non, on veut comme dit si bien M. Alexandre tout le temps, il dit on veut qualifier les gens. On ne veut pas les disqualifier. Alors, on veut certainement être derrière et tout ça et encourager. Mais va voir des gens autour, des gens qui aiment le Seigneur et qui sont matures. Alors, en exerçant nos dons dans l'amour, tu complètes, dans le fond, ce qui manque à l'Église. Tu es en train de nous bâtir, de nous aider, nous fortifier, nous édifier. Tu nous motives, nous inspires. C'est ça, lorsque tu mets ton don au service des autres. Tu es en train de bénir l'Assemblée. Alors, ta vie compte. Tu es doué. Et le bel exemple de l'Église, c'est une mosaïque. Et tu regardes la mosaïque hein, au complet, c'est un paquet de petits morceaux. Et nous sommes tous ces morceaux-là ensemble, mais à la fin, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est ça l'Église. On est porté, l'Église a pour but de glorifier, de manifester Jésus-Christ. Et tous ensemble, lorsqu'on met nos services, nos dons au service des autres, on est en train de bâtir l'Église pour qu'elle ressemble davantage, pour que l'image soit de plus en plus claire de la personne de Jésus-Christ. Alors, veux-tu grandir en 2014? Tu veux grandir? Change d'idée. On a besoin de changer d'idée. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait parce que nous dépendons tellement de toi. On a vu encore ce matin comment tu es le héros. Tu es vraiment le héros, Seigneur. Tu es notre héros. Tu as tout fait pour nous, Seigneur. Tu nous as donné une nouvelle identité. Et nous voulons vivre selon cette nouvelle identité. Seigneur, nous voulons vivre avec cette attitude qui va contribuer à l'accroissement de ton œuvre ici, dans l'humilité, en toute humilité, en toute douceur. Nous efforçant de conserver l'unité. Et nous voulons vivre dans l'Évangile, centrer nos vies sur l'Évangile et nous rappeler, Seigneur, que ce grand jour s'en vient où nous allons nous te retrouver. Et nous voulons, Seigneur, aussi mettre au service des autres le don que tu nous as donné. On veut servir au sein de l'Église, on veut contribuer, aider, parce qu'on sait, Seigneur, qu'au bout de ligne, tu vas remplir nos cœurs de cette joie